Mes très chers auditeurs, on vous retrouve donc toujours en direct du salon Médecine douce, bien-être et Thalasso sur le stand E29 où on a la chance d'avoir toujours des invités plus exceptionnels les uns que les autres. Alors pour m'accompagner tout au long de cette émission, là on a la chance d'avoir un animateur qu'on adore, Emmanuel Carrière.
Bonjour Nathalie.
Toujours au rendez-vous Emmanuel, merci d'être là.
Toujours présent.
Alors tu es venu avec une personne que tu admires énormément, dont tu m'as déjà beaucoup parlé, qui est un illustre homéopathe.
Oui.
Docteur Albert-Claude Kemoun. Voilà, bonjour. Ouais.
Bonjour à tous, mais je suis vraiment très honoré de vous avoir en face de moi et puis surtout de me faire interviewer par vous. Quel honneur et quel bonheur.
Eh bien c'est un plaisir partagé. Alors Emmanuel, raconte-nous quelle a été ta rencontre avec le docteur Kemoun.
Rencontre il y a de ça bien 4-5 ans, hein, facilement.
Ça ne me rajeunit pas.
Et je suis rentré dans cette aventure, dans cette fabuleuse école qu'il a sur Paris. Il y a Paris, hein, on a donc l'Institut homéopathique scientifique de Paris qui se trouve à Neuilly. Et donc j'ai commencé l'aventure et puis après je suis tombé amoureux de l'homéopathie.
Donc j'ai peur. Ouais.
Et puis t'es tombé dans les granules.
Je suis continué, puis j'ai poursuivi ma formation aussi en Suisse, donc là bien 6 ans maintenant, et je pratique ça avec grand amour. C'est ce que j'ai d'ailleurs présenté au Salon Vivez Nature, Jardin des Thérapies, sur l'homéopathie énergétique, puisque pour l'esprit du remède, et Albert-Claude peut largement développer tout ce que... On a fait une émission déjà ensemble, tout ce qui est l'homéopathie à différents types de niveaux, et même tous les travaux qui ont pu être faits. D'ailleurs, une de ces... L'intervention sur les... Bon, il y a ces ouvrages sur Parkinson déjà. Il y a aussi des travaux aussi sur la dernière réunion qui a eu lieu au mois de janvier sur l'autisme. Donc, il y a... où l'homéopathie intervient sur un terrain. Là, l'essentiel de tout, c'est là où on construit sa maison, il faut que le terrain soit solide. Après, on met les fondations. Et tout l'art est la manière de... On peut faire, enfin, de bien faire les choses sur le terrain.
De l'aménager, mais il faut évidemment que le terrain soit... Ouais.
Donc
soit
l'homéopathie, en fait, elle agit à tous les niveaux. Hier, on parlait d'équilibre, mais là, elle agit à tous les niveaux, alors, tant physique que informationnel.
Justement, mon cher Emmanuel, est-ce que le docteur Kemoun, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous expliquer, même si c'est parfois compliqué à comprendre pour du grand public, mais quel est le principe de l'homéopathie? Comment est-ce que ça fonctionne, si on peut vulgariser un petit peu l'idée?
L'homéopathie est basée sur trois grands principes. Le principe d'abord de similitude, puis d'infinitésimalité, puis totalité. Qu'est-ce que cela veut dire, évidemment? Similitude, imaginons, je ne le souhaite pas, certes, imaginons que vous soyez piqué, non pas dans votre amour propre, cela va sans dire, mais piqué par une abeille. Ça fait bobo, ça fait mal, ça gonfle, c'est chaud, et c'est amélioré par les compresses froides. Imaginez par analogie que votre ami, M. Carrière, qui a fait des grandes carrières d'ailleurs, soit non pas piqué dans son amour propre, mais qui est une douleur articulaire, rouge, chaude, et éventuellement, également, améliorer cette douleur par des compresses froides. Comme si elle avait été le même type de douleur semblable à une piqûre d'abeille. On va lui donner tout simplement du venin d'abeille à dilution infinitésimale. Troisième principe, c'est la totalité. Vous avez plusieurs médicaments qui peuvent éventuellement être donnés dans les cas de nausées, de vomissements.
Mais Nuxvomicar,
c'est très fort. IPK, Nuxvomicar, c'est dit comme album, Phosphorus, Mercurius, bref, des foules. Mais par contre, chacun de ces médicaments a une modalité particulière. L'un peut être amélioré après avoir vomi. L'autre, au contraire, aggravé. L'un amélioré par des boissons froides. L'autre amélioré par des boissons chaudes. L'un amélioré par le frais. L'autre amélioré par la chaleur, etc. L'un amélioré par le mouvement. L'autre, au contraire, par l'immobilité. Donc, finalement, on regarde les nausées, certes, mais également le comportement du sujet dans sa totalité.
Et c'est toujours très précis. C'est des infos. Alors c'est vrai que moi, j'ai fait un petit peu de l'automédication avec une amie qui n'y connaît rien en homéopathie et je lui demandais, alors j'avais regardé sur un livre de Jacqueline Pecker justement, je lui demandais est-ce que tu as l'impression d'avoir un goût de métal dans la bouche, est-ce que, voilà, et encore une fois c'est des questions très très précises, mais quand on a ciblé le bon remède, c'est d'une efficacité incroyable.
Absolument.
Alors, je sais aussi qu'en homéopathie, il y a différents types de personnes. Alors, il y a des gens qui sont un peu phosphoriques. Voilà, est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus, docteur Kemoun?
Vous êtes une belle phosphorique.
Apparemment, oui. On l'a déjà dit.
Effectivement, certains sujets vont avoir un comportement différent par rapport à leur physiologie, par rapport à leur anatomie, par rapport à leur... comportement. Les uns seront peut-être allongés, les autres seront plutôt en largeur, les autres seront à peu près difformes. Bref, chacun de nous peut avoir une typologie différente, heureusement. D'autres par contre, mixtes.
Ah bon, il y a des mixtes.
Oui. Oui, il y en a qui peuvent évoluer aussi.
D'accord.
Comme éventuellement, d'ailleurs, il y a des hommes et des femmes, il y a des mixtes aussi. Pourquoi pas? Il y en a qui sont entre les deux.
Oui, oui.
Et là, c'est la même chose. Vous aurez des grands gros, des petits gros, des gros tordus, des gros asymétriques, des longs asymétriques, etc. Qu'importe. Donc, par conséquent, vous allez avoir une typologie particulière, soit simple, soit mixte. D'autre part, vous allez parfois...
Excusez-moi, je ris parce que j'ai deux de mes meilleurs amis qui sont là. Alors voilà, je ressens l'amour d'ici, c'est pour ça.
C'est très important, c'est très important. C'est un capital.
Si tu fais rire Albert-Claude, c'est fini.
C'est vrai.
On peut rendre l'antenne.
Mais j'ai envie de le faire rire quand même. Bon, j'ai envie qu'il nous explique parce que c'est passionnant.
D'autre part, vous avez aussi un mode de comportement qui peut évoluer. Tout d'abord, au début, vous allez avoir un sujet qui élimine beaucoup. Il va être en pleine forme. Mais si on arrête ces éliminations, si on arrête de transpirer par exemple, ou si on l'empêche d'aller à la selle ou autre, ben, il va avoir une rétention hydrique. Ou éventuellement, s'il a eu des vaccinations, s'il a eu des antibiotiques, s'il a eu des corticoïdes, etc., son mode d'élimination sera bloqué et va déclencher d'autres pathologies. D'autre part, vous avez des sujets.
Retiens-toi, ça va bien se passer.
C'est moi qui vous fais rire.
Un petit peu,
non,
c'est
mais je regarde toujours avec beaucoup d'attention. Les gens ont parfois l'impression que c'est étrange.
Et d'autre part, il y a des personnes qui vont aussi avoir des problèmes, non plus symptomatiques, mais même organiques. Et à ce moment-là, vous aurez des sujets qui vont avoir un foie esquinté, un foie ulcéré, d'autres qui vont avoir des pathologies ORL, d'autres des pathologies pulmonaires, etc. Et on voit au fur et à mesure du temps une évolution du comportement du sujet et une évolution éventuellement du comportement par rapport à de nouvelles maladies qui apparaissent. Ces pathologies peuvent être déclenchées aussi par un abus médicamenteux, par un abus d'alcool, par un abus de drogue, par un abus de stress de travail, etc.
Par un traumatisme.
Pourquoi pas un traumatisme, bien sûr, absolument. Il y a aussi un traumatisme physique, certes, mais aussi un traumatisme de l'âme. Un traumatisme après un divorce, après un choc, des personnes qui ont un accident de voiture. Il y a évidemment le choc physique, certes, mais également, il y a des personnes qui ne dorment plus après avoir eu un accident de voiture. D'autres ne veulent plus conduire, etc. Donc finalement, on voit bien qu'il y a le choc physique, certes, mais le choc psychique de l'âme, c'est encore plus important. C'est encore celui qui va rester peut-être plus imprégné dans votre mémoire.
Et qu'on peut retrouver de génération en génération.
Le passé, non. Effectivement.
En tout cas, l'homéopathie ne nous morcelle pas. Elle nous rend plutôt...
C'est un totem.
Voilà, c'est ça, global.
Global, absolument.
Et elle prend en charge tout ce que l'on est.
Dans sa globalité.
Ce serait fou, enfin, c'est complètement fou aujourd'hui de penser encore qu'on peut juste traiter le symptôme et ne pas s'occuper du reste. Hein.
Alors, d'une façon générale, vous voyez, je pense que c'est une bonne question, une bonne. Parce que finalement, le sujet peut effectivement avoir un comportement particulier, mais ce comportement peut évoluer, et surtout, le sujet peut avoir des pathologies, mais qui seront, et le sujet va se comporter différemment selon la typologie du sujet. Je m'explique. Des personnes qui ont des douleurs, les unes seront améliorées par le repos, d'autres au contraire, améliorées par le mouvement, d'autres améliorées par le froid, d'autres améliorées par le chaud, d'autres aggravées la nuit, d'autres améliorées la nuit, d'autres aggravées dans la journée, d'autres améliorées dans la journée. Doit être aggravé par un stress d'une personne qui les a engueulés, qui les a surprises, qui leur a fait une remontrance, etc. Et finalement, des pathologies nouvelles se déclenchent. Suite, par exemple, à une agression verbale, des personnes déclenchent des pathologies. D'ailleurs, dans le, il est classique d'entendre dans les réflexions populaires, cette personne, j'ai dans la peau. Quand je vois cette personne, au contraire, j'en ai de l'eczéma, j'en ai des éruptions, j'en ai des gratouilles. Quand je vois cette personne, j'en ai des brûlures d'estomac. Il y a parfois même des pathologies plus graves, tels que des cancers qui se développent.
C'est vrai qu'il y a des expressions populaires, en tout cas, qui décrivent déjà
le
fait que ça puisse se somatiser. Non, c'est vrai que c'est tout à fait passionnant. Emmanuel, raconte-nous, qu'est-ce que l'homéopathie a changé dans ta vie ?
En une phrase, je te dirais remonter aux causes, voilà, et aux origines.
Une médecine de source.
Oui, parce que celle-ci se découple, comme l'a dit Albert Claude, le professeur Kemoun, sur tous les plans. Peut-être transgénérationnel de l'âme, du corps, du physique, de la physiologie, dans tous les sens. Et si on remonte, on fait sauter ce barrage, ou cette blessure, quelle qu'elle soit, eh bien on évite qu'elle se transmette. Et là, on a quelque chose de très, très puissant. Tant les barrages physiques, je dis vaccinaux, maladies, blessures de l'âme, et tout autre. Alors, est-ce que tu peux, si Nathalie me le permet, nous parler de ce qui était des dernières peut-être avancées de l'équipe du professeur Montagnier, des découvertes sur l'autisme, ou ce qui a été fait en un mot ou...
Mais disons qu'en un mot, d'abord, il y a eu d'abord les travaux, évidemment, différents travaux sur le pourquoi de l'homéopathie, sur le comment de l'homéopathie. Et finalement, mon ami Jacques Benveniste avait donné une définition, avait donné un mode de fonction et avait donné une hypothèse d'une transmission soit électromagnétique, soit d'une longueur d'onde du médicament dans un solvant. Il a été critiqué, il a été battu, il a été combattu, même par des hauts chercheurs. Puis maintenant, ces mêmes hauts chercheurs reprennent ses travaux et se rendent compte que, effectivement, dans un solvant, un médicament même très dilué peut donner, exprimer sa longueur d'onde. Et cette même longueur d'onde peut être transmise à l'extérieur, à la limite, par téléphone. Pourquoi pas ?
Oui, c'est impressionnant.
Connaître parfaitement cette la longueur d'onde. Alors imaginons qu'on ait de l'ADN, qu'on les dilue. Il n'y a plus d'ADN dans le savon, parce qu'on a tellement dilué qu'il n'y en a plus, physiquement, chimiquement plutôt. Et cependant, dans le solvant, la longueur d'onde de l'ADN est restée. Moi-même, j'avais fait des travaux il y a quelques années, en 1985, sur des récepteurs du cerveau. Enfin, sur des récepteurs du cerveau, quand on bloque ces récepteurs avec des marqueurs radioactifs, on arrive à déplacer ces marqueurs radioactifs, et c'est visible. Donc, quand on déplace un marqueur radioactif, on peut le voir soit avec un compteur de particules quand il se déplace, soit avec une photographie. Et puis finalement, ce médicament, ce marqueur radioactif peut être déplacé par des dilutions très hautes, au-delà du nombre d'Avogadro, au-delà de la molécule. Donc c'est plus une question chimique, mais une question physique, pourquoi pas peut-être une question quantique.
Oui, c'est ça, j'allais dire, une question quantique, une question d'information. Ouais. Et d'ailleurs, en homéopathie, il me semble que plus le remède est dilué, plus il est fort. Les dilutions corsacoviennes, c'est extrêmement dilué, non ?
C'est extrêmement dilué, mais en fait, les corsacoviennes sont surtout des dilutions, sont des mélanges de dilutions. Alors que les allemaniennes sont des dilutions strictes, pures. Et puis, effectivement, il y a des travaux qui ont été faits, en Inde notamment, avec des 200 CH, des 1000 CH, etc. On a démontré que ça marchait également. Puis moi, en ce qui me concerne, j'ai fait des travaux sur des dilutions qui dépassent l'onde d'Avogadro, et cependant, il y a un effet physiologique.
Alors en plus, ce qui est toujours étonnant quand on se rend chez un homéopathe, c'est toutes les questions qui vont précéder le fait de donner un traitement. Alors moi, j'avais jamais eu autant de questions auxquelles je m'attendais pas, sur ma personnalité, sur ma manière de vivre, comme vous le disiez. On est en train de définir, mais alors c'est pas juste un profil psychologique, ni émotionnel, ni physique. C'est un ensemble de tout ça.
Même c'est égo alimentaire également.
Oui, voilà, c'est ça.
S'améliorer en montagne, s'améliorer en bord de mer, etc.
C'est comportemental. Voilà.
Oui, quelles questions on pourrait poser à un patient, par exemple, dans un entretien avec un homéopathe, qui soit hors norme ?
S'il se réveille la nuit, à quelle heure il peut se coucher ? À quelle heure il se lève ? S'il se lève pour faire pipi ? si ses symptômes, c'est, je sais pas, à 17h, s'il y a des réactions, si par exemple il a des boutons, bah, il pousse à quelle heure, enfin voilà. Bah,
s'il est ponctuel.
Oui, par exemple, oui, et s'il arrive au cabinet, il est déjà, pardonnez-moi de cette expression, à poil avant d'être, déjà d'être examiné, enfin voilà, s'il est pressé, enfin voilà, son comportement, à travers la morphopsychologie, hein, donc c'est un bel outil, et à travers ses mots, son expression, sa façon de parler.
Et puis parfois l'homéopathe n'a même pas besoin de questions, il observe la personne parler et il se rend déjà compte de tout.
Comportement. Voilà.
C'est quand même assez exceptionnel.
Ce ne sont pas des magiciens, ils ont appris beaucoup de choses.
Non, et puis l'homéopathie, c'est vrai, a souffert de beaucoup de détracteurs, on le disait.
Grâce à Albert Claude, à son école, à son institut, et surtout aux travaux de Benveniste, hein, qui ont réussi quand même, et puis à tous les gens qui soutiennent, hein, je pense à tous mes professeurs qui sont ses collaborateurs, et les gens qui sont européens, parce qu'il y a pas, heureusement que l'Europe aussi peut-être est là, non, Albert Claude ? Ouais, au Canada, tu interviens partout dans le monde, de toute façon. Hein. L'homéopathie a sa place.
Tous les 3 mois, je suis au Canada.
Au Canada, j'imagine qu'ils sont très enclins. Déjà, ils sont très ouverts à ces approches-là.
Alors, au Canada, j'ai quand même offert quelque chose d'intéressant. Et notamment, il y a, contrairement en France, il y a un nouveau conseil de l'ordre qui a été réalisé depuis un mois seulement. C'est un scoop. Hein.
Ah, Nathalie, un scoop.
Ouais.
Alors,
un scoop,
attention.
Pour la voix du bien-être, pour la radio.
Radio Médecine Douce.
Eh bien, j'avoue que je reconnais que quelque chose d'important, il a été réalisé au Canada, à Toronto plus exactement, un conseil de l'ordre des homéopathes. C'est la première fois dans le monde.
C'est extraordinaire.
Uniquement des homéopathes. Comme il y a un conseil de l'ordre des médecins, un pharmacien, etc. À des homéopathes.
Un conseil de l'ordre des homéopathes. Des homéopathes.
Au Canada. Il faut savoir que en Suisse, elle a sa place, hein, comme l'acupuncture.
Mais il n'y a pas de conseil de l'ordre.
Non. Voilà. Bon, en France, ça va. Il y a encore du boulot. Hein.
Ben non, ça dépend. Si on suit les normes européennes. D'ailleurs maintenant, la pharmacopée française était remplacée par la pharmacopée européenne en ce qui concerne l'homéopathie.
Ouais.
Hélas, oui.
Donc ce qui fait qu'on ne trouve plus forcément les remèdes qu'on trouvait avant.
Et certaines dilutions. Et
c'est parce que certains laboratoires parce que c'est la tête aussi. Mais enfin,
on a l'impression qu'il y a un seul laboratoire qui existe, Albert Claude Kemoun. Non, il n'y a pas que Boiron en matière d'homéopathie.
Il y a un tas de laboratoires, il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre, ce sont des pharmaciens d'officine qui ont un petit laboratoire à côté, qui travaillent dans l'ombre et qui font un très bon travail. Il y a d'autres laboratoires comme le laboratoire Lini qui sont ralliés avec Rocal et qui font une bonne homéopathie. Il y a le laboratoire Ferrier avec Arco Pharma qui fait une bonne homéopathie, pourquoi pas. Et le laboratoire Véleda qui fait une sorte d'homéopathie un petit peu différente certes, mais... Voilà, enfin bon,
il y en a en Suisse, en Allemagne, en France, quelques pharmaciens, mais dans le centre de la France, ou à Épernay, aux Archers par exemple.
Enfin, à Paris, il y en a beaucoup, aux Archers, au Mans, etc. Il y a différents petits laboratoires qui sont montés et qui fonctionnent très bien, qui font de très bons produits. Voilà.
Et puis ça fonctionne les adultes, mais aussi évidemment sur les enfants. Et d'ailleurs, ça fonctionne souvent très très bien sur les enfants et sur les animaux. Et on a une invitée régulière, notre chère Jacqueline, qui vient nous parler, elle, de son amour des animaux et de sa pratique de l'homéopathie vétérinaire.
Ce n'est pas un placebo.
Exactement, j'allais vous le dire, c'est le meilleur argument pour contrer le fait que ce n'est pas un placebo. Et quand on vous dit « Ah oui, mais c'est dans la tête », bah non, les animaux, en tout cas... Ça marche sur eux.
Moi, j'ai travaillé sur des écrevisses, vous voyez. C'est des écrevisses. Bon, c'est des écrevisses qui mouraient. Hein. Donc, avant, ça a été la France a été le premier exportateur d'écrevisses. Et d'un seul coup, on est devenu importateur. Et puis, évidemment, il se passait quelque chose. Les écrevisses ont une pathologie musculaire. Et on a fait 2 bacs, un bac A et un bac B. Dans le premier bac, on l'a laissé sans traitement. Dans 2 bacs B, on a mis un traitement homéopathique. Et on a eu 40% d'écrevisses qui ont survécu, alors que dans l'ocre, toutes les écrevisses sont mortes. Et là, on ne peut pas dire que c'est un placebo. À la limite, un chien, on peut peut-être comprendre son maître et accepter ce que son maître lui donne.
Mais c'est là qu'avec une écrevisse.
Je pense pas.
Il n'y a plus de doute.
Voilà.
Alors, je ne sais pas si on pourrait.
Et chez les plantes également.
Et j'allais le dire, voilà.
Excusez-moi.
Non.
J'ai un sentiment de culpabilité, là, vraiment.
Ça doit se traiter en homéopathie, ça.
Non, mais ça prouve qu'il y a une bonne connivence.
Oui, c'est clair. On commence à en parler, mais on peut soigner, dorloter ses plantes avec l'homéopathie. Ouais. Mais alors, ça, comment on fait? On peut pas lui poser de questions à sa plante. On l'observe.
On l'observe, comme les belles plantes.
Voilà, ouais. L'air de rien, docteur Kemoun place un très joli compliment, c'est très gentil. Alors, on peut en tout cas suivre vos formations. Emmanuel, tu vas peut-être nous donner toutes les coordonnées.
Bien, les connaît par cœur. Je te laisse, vas-y. Oui. Parce que cet institut est quand même... Il existe depuis combien de temps?
30 ans.
Voilà, donc valeur sûre.
Nous allons faire notre congrès international le 20 et le 21 juin. On va faire un congrès international des 30 ans de l'école.
Donc un grand jubilé, ouais, au mois de juin.
20 et 21 juin.
Dans l'école et en même temps, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est vrai, 30 livres d'homéopathie écrits. C'est une coïncidence. Hein.
30 ans, tu dis de...
30 livres d'homéopathie écrits.
30 livres, ah oui, parce que Albert Claude a traité de l'enfance, maigrir, arrêter de fumer, des bibles.
Parkinson.
Des
matières médicales, etc.
Ouais. Des matières médicales. Il y en a encore d'autres en préparation aussi, peut-être.
Pour les 30 années de l'école, il y aura eu 30 livres que j'ai écrits. Aussi bien en France qu'au Canada, en Belgique, au Japon et en Italie.
Oui, c'est vrai, parce que sur ton stand, il y a des livres en italien de homéopathie quand même. On est aux portes de Versailles.
Homéopathico. Voilà. Oh. Ça continue.
C'est fort. J'imagine. Fort, mais pas obèse.
Bon.
Ouais, juste un petit mot, parce que c'est tout le temps comme ça que le sourire en cours. Et donc j'invite nos gens qui sont passionnés, même des gens qui viennent juste pour apprendre ou s'initier, en savoir un peu plus.
Alors l'Institut homéopathique scientifique, donc, se situe à Admann, au centre Admann.
Au centre Admann à Neuilly.
85 rue de Chézy à Neuilly.
85 rue de Chézy à Neuilly. Voilà, c'est un dimanche par mois.
Un dimanche par mois, oui.
Pas très contraignant.
Et le bureau se trouve au 18 avenue Victor Hugo à Paris.
Donc pour tout un grand public qui souhaiterait avoir des informations,
il y a un site internet,
utiliser l'homéopathie.
Professionnel, évidemment aussi.
Oui, parce que dans les cours, il y avait des éleveurs, il y a eu des vétérinaires,
les
médecins aussi, dans le cours.
Les enseignants ?
Dans les participants, dans les gens qui apprennent. Et dans les enseignants, il y a une belle équipe entre dentistes, chirurgiens dentistes, professeurs, médecins. Il y a une belle liste.
Dermatologues, gynécologues.
Oui, gynécologues.
Mais c'est vrai que je pensais aux enseignants dans le par exemple les maîtresses. C'est vrai que moi, un de mes premiers petits boulots, c'était d'être surveillante dans des écoles. Et parfois, quand les petits tombent, quelques granules d'arnica, il n'y a rien de mieux. Donc je pense que parfois, on pourrait aussi transmettre ces petits remèdes qui sont à la fois bon marché, extrêmement efficaces, et puis qui conviennent à tout le monde.
C'est ça qui dérange aussi parfois. Voilà.
Il y a les petits livres qui sont des... trousse de secours en quelque sorte.
Complètement.
De première urgence, voilà.
Donc voilà, on part en vacances d'ailleurs, ne jamais oublier sa petite trousse de granules homéopathiques.
Oui, exactement. Mais c'est accessible à tous. Hein. C'est après, chacun fait son chemin, mais.
Mais c'est une très très belle médecine. Et on était ravis de vous avoir, docteur Kemoun. Merci.
Merci beaucoup, Madame Lefebvre, de m'avoir accueilli. Merci beaucoup, Monsieur Carrière, également de m'avoir accueilli.
Mon cher professeur.
Je garde toujours un excellent souvenir. D'une part de ce salon médecine douce, si je peux me permettre. Et là maintenant, j'aurai désormais un excellent souvenir de la radio médecine douce. Merci.
Super, merci.
Merci beaucoup.